Good Morning Business, le grand débrief.
Il va y avoir un duel, un triel sur ce plateau, notamment sur l'inflation, parce qu'il y a les chiffres que donne Jean-Marc Daniel ou Wilfried Galland, et puis il y a les chiffres que donne Gaël Sliman, le chiffre de l'inflation ressentie. Les Français pensent que l'inflation est deux fois ce qu'elle est réellement, alors... Qui dit vrai ? Qu'est-ce que c'est l'inflation ressentie ? C'est comme à la météo maintenant en fait.
Ouais, vous avez ça à la météo. C'est quand on interroge les Français en leur demandant à combien ils estiment la hausse des prix à la consommation depuis ces 12 derniers mois.
Ils disent quoi ?
C'est une perception. Alors, ils disent plein de choses, mais quand on fait la moyenne de toutes les données chiffrées qu'ils nous donnent, on est à 12,5% en moyenne. Et vous avez raison, c'est exactement le double, c'est magique, du chiffre indiqué par l'INSEE. Alors, on en débattra avec mes camarades, mais ce qui est intéressant, c'est que...
Jean-Marc Daniel fait les gros yeux, hein.
Non, pas spécialement, il est habitué, Jean-Marc, parce que... Qui a raison, qui a tort? Vous savez que pour les sondeurs, l'INSEE est la référence. Donc on n'est pas en critique de l'INSEE, puisque ce sont les données de l'INSEE qui nous permettent d'établir tous nos indicateurs, tous nos quotas, tous nos critères. En revanche, ce qui est intéressant dans cette perception des Français, c'est que finalement, eux, qu'observent-ils? Qu'est-ce qu'on achète tous les jours? Des biens de consommation courants, des produits alimentaires, du poulet, de l'huile, de l'essence quand il y en a. Et sur tous ces produits-là, ils ont... plus que raison. On a même une inflation à 20, à 30, à 40%. Et donc, eux, ce qu'ils ressentent dans ce qu'ils payent le plus souvent, dans ce qui les touche au quotidien, c'est cette inflation-là. J'ajoute que on a systématiquement, parce qu'il y a aussi un petit biais de pessimisme chez l'être humain, en général, et chez le français en particulier. Quand on fait des benchmarks internationaux, on a une propension à être toujours plus pessimiste que les autres. J'ajoute qu'on a quand même 35% de la population qui situe l'inflation à plus de 15%.
Ah oui.
Donc on a des perceptions qui sont très fortes et que ça a été constant. Le mois dernier, on testait l'inflation, on était en septembre, on était à 8,6, alors qu'on était à ce moment-là autour de la moitié quasiment.
Jean-Marc Daniel, c'est très important le ressenti, parce que c'est ce qui peut conditionner les anticipations économiques, les revendications salariales.
Oui, ça conditionne effectivement les revendications salariales, mais sur le fond, c'est pas nouveau. C'est-à-dire que vous vous souvenez, quand on est passé à l'euro, le nombre de gens qui vous ont expliqué que ça avait généré une inflation absolument
délirante. La baguette.
Et Nicolas Sarkozy,
il y a des trucs qui a le moins augmenté depuis l'euro.
Nicolas Sarkozy avait été obligé de demander justement à l'INSEE de faire une étude très précise quand il était ministre de l'économie sur la réalité de l'évolution des prix, avec un affichage des prix, pas uniquement en taux d'évolution, en disant voilà, ça coûtait tant en 2002. En 2001,
est-ce que vous savez combien coûtait une baguette avant l'euro?
Écoutez, je m'en souviens plus.
4,50 francs.
Oui. Ouais, je vais dire 5 francs.
Moi, j'ai vu, c'est 4,50 francs, c'est ça, je crois.
Moi, j'ai dit 5 francs à peu près.
Oui, ouais, 4,50 francs, alors qu'aujourd'hui, elle vaut 80 centimes, 90 centimes, c'est-à-dire pas beaucoup plus.
Non, non, absolument. Et les gens sont toujours très surpris quand on regarde les prix qui continuent à être affichés en francs, de découvrir qu'en fait, l'euro n'a pas augmenté les prix. Donc, il y a toujours systématiquement un biais de la part de la population. Ensuite, je rejoins ce que disait Gaël, c'est-à-dire le fait que, effectivement, et l'INSEE essaie d'en tenir compte, les biens dont les prix ont le plus augmenté, ce sont ceux que l'on achète tous les jours. Alors que les biens dont les prix ont plutôt tendance à stagner, voire à reculer, il y a des prix qui baissent.
Mais alors, est-ce que l'indice, il est pertinent?
Est-ce qu'il ne faut pas revoir finalement la méthode de calcul?
Ah non, pas du tout, parce que l'indice s'en tient compte, et l'indice essaie de tenir compte de deux choses, de cette fréquence d'achat, d'une part, et d'autre part, du fait qu'il y a des effets qualité. C'est-à-dire que le produit qu'on achète sur plus ou moins longue période n'est pas exactement le même. En particulier, vous savez bien qu'en ce moment, sur certains produits alimentaires, les fabricants ont tendance à enlever 10 grammes, 20 grammes du produit de façon à maintenir le prix et puis à grignoter comme ça, et sur des masses de ventes assez importantes, ça leur a permis de gagner de l'argent. Donc l'INSEE tient compte de tout ça. Il n'empêche que, et alors là c'est un résultat aussi que connaissent les économistes, les gens sont moins sensibles à la valeur réelle, au pouvoir d'achat, qu'à l'affichage, à la valeur nominale. C'est une des grandes forces de Keynes. Keynes disait, si vous dites aux gens à choisir entre vous gagnez 100 et les prix sont à 100, je vous donne deux situations, deux choix possibles, vous allez gagner 120 et les prix seront à 130, vous allez gagner 80 et les prix seront à 50. Il vaut mieux choisir 80, 50. Mais spontanément, les gens disent, je prends 120. Même si, en réalité, à la fin, ils ont perdu du pouvoir d'achat. Et donc, il y a cette espèce de sensibilité à l'évolution nominale qui se répercute, effectivement, dans la perception qu'ont les gens de la réalité qu'ils vivent.
Wilfried Galland.
Oui. En fait, moi, ce qui me frappe beaucoup, effectivement, c'est quand on fait le lien avec les discours des différents banquiers centraux, et on sort d'une très grande séquence hier avec la Réserve fédérale, la grande crainte des banquiers centraux, c'est justement d'avoir des anticipations d'inflation qui, en langage économique, on dit qu'ils se désancrent. C'est-à-dire qu'en fait, qui vont effectivement générer des spirales de prix. Et ce que Jérôme Powell disait hier dans sa conférence de presse, quand on lui disait, mais on n'en a pas aujourd'hui de spirale de prix. Donc arrêtez de dire qu'il y a un véritable problème d'inflationniste. Vous êtes en train d'en faire trop. Il y avait pas mal de questions là-dessus. Et il disait, en fait, lorsque une spirale de prix se déclenche, prix salaire, c'est trop tard. Il a dit c'est trop tard quand vous commencez à la voir, en fait c'est trop tard pour la calmer, et donc il faut que je fasse des choses de façon préemptive. Et donc toute la question de l'inflation, c'est effectivement ça, c'est l'inflation, on est vraiment au cœur du sujet, c'est-à-dire que l'inflation ressentie peut à la fin se trouver véritablement dans les chiffres et générer après des politiques économiques tellement restrictives qu'elles vont envoyer le monde dans une récession très forte. Et là, effectivement, le remède est pire que le mal. Ouais. Donc l'équilibre est vraiment très dur à trouver.
Gaël Simon, est-ce qu'effectivement, cette spirale est déjà enclenchée selon les Français?
Je ne pense pas, parce que finalement, c'est assez constant, ce dont on débat là. L'écart entre le niveau d'inflation réel, tel que mesuré par l'INSEE, et celui qui est perçu par les Français, il est assez constant, parce qu'on a plein de mesures en rappel. Hein. Je vous donnais le 8,6% estimé en septembre dernier, mais on était à 2,6% à un moment, il y a un an de ça, un an et demi de ça, où il y avait quasiment zéro d'inflation. On était à 0,6% en indice INSEE. Donc finalement, le ratio que l'on mesure, il est assez progressif. Ce qui est peut-être plus inquiétant, ce sont les autres résultats de notre baromètre économique de ce mois-ci, avec vous, Challenge et Abeille Assurance, où on voit que finalement, les anticipations pour l'année prochaine, alors elles sont toujours très pessimistes, même quand ça va pas si mal, encore une fois, nous
on en a parlé
français,
certains, ouais.
Mais là, on se projette sur quelque chose qui commence à être vraiment tendu. On a 8 personnes sur 10 qui nous disent l'année 2023, elle sera pire que l'année 2022, sachant que l'année 2022, elle n'est pas bonne et que les gens le savent. Donc là, on commence à entrer dans quelque chose d'un peu inquiétant. Et autre élément, sur tous nos indicateurs économiques, ça ne vous étonnera pas, on voit un rapport des Français à l'épargne qui est très simple. Hein. Quand ça va mal, on épargne parce que ça va mal. Quand ça va bien, on épargne parce que ça ira peut-être plus mal demain. Là, on a de très nombreux ménages qui nous disent « je n'arrive plus à épargner et je suis même obligé de commencer à puiser dans mon épargne ».
Alors, messieurs les économistes, Wilfried Galland et Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il faut continuer à augmenter les taux, comme le suggère Jérôme Powell hier, au risque, effectivement, comme le disait Gaël, d'entraîner ce sentiment très négatif, cette peur de l'avenir, ces anticipations de récession? Est-ce que l'inflation, là, elle est tellement incontrôlable qu'il faut continuer à charger la mule?
Ce qui me frappe dans le discours sur les anticipations, c'est que c'est un discours qui a été construit sur le plan théorique dans les années 70, à l'époque où il y avait une politique des revenus. Toute la conception sur les anticipations avait été organisée autour de ce que faisait la Bundesbank, en disant la Bundesbank est autonome, et il y avait ce que j'appelle une politique des revenus, c'est-à-dire une négociation entre les patrons et les syndicats sur les évolutions de salaires et de prix. Et le discours, c'était de dire, si vous voulez avoir beaucoup d'augmentation de salaire, de toute façon, la Bundesbank qui est indépendante, elle augmentera ses taux, ça va faire du chômage, et vous allez payer en chômage, vous allez obtenir en pouvoir d'achat. Ouais. Et donc, si vous anticipez, si vous générez trop de hausse, vous allez créer de l'anticipation que vous avez, c'est que effectivement, la Banque Centrale va réagir. Bon. Cette théorie était toujours appliquée, c'est-à-dire, il faut que les gens anticipent le fait qu'on va durcir les taux d'intérêt, et donc ils ont
Ça marche plus, là, aujourd'hui?
Mais ça marche plus, parce qu'il n'y a pas de politique des revenus, parce que vous n'avez plus de lieu où les gens se réunissent pour dire de combien vont augmenter les salaires.
Ah, dans les NAO?
Vous avez des négociations, oui, mais sans entreprise par entreprise. À l'époque, c'était tous les syndicats se réunissaient, aussi bien en Allemagne que dans les pays scandinaves. On avait essayé en France avec Massé.
Mais ça veut dire quoi, Jean-Marc? Ça voulait dire que ça sert à rien?
Ah, mais ça sert complètement à rien. Ouais. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment autour de la Banque Centrale est totalement inutile. Et donc, c'est d'ailleurs ce que dit Madame Lagarde. Elle dit, écoutez, l'inflation, je sais pas d'où elle vient. Le problème.
Elle est là, pourtant.
Oui, elle sait pas où elle va non plus. Elle sait pas où elle va non plus.
Le modèle ne marche plus.
Le modèle ne marche plus.
Elle le dit, hein.
Et donc, sans vouloir me citer là, donc, après avoir cité les fables de Florian, mon article dans les Échos d'hier, je pense que le véritable enjeu maintenant pour les banques centrales, c'est que le modèle, aussi bien le modèle politique des revenus anticipation des années 70, que le modèle politique des taux d'intérêt grande modération des années 90 n'est plus pertinent.
Mais Jérôme Powell, il écoute pas Jean-Marc Daniel, hein, parce que Jérôme Powell,
il n'y a pas que Jean-Marc Daniel qui le dit.
Non, mais
il y a
Stiglitz il continue à penser, Jérôme Powell, est-ce qu'il a tort, Wilfried Galland, il continue à penser que pour lutter contre l'inflation, il faut augmenter les taux.
En fait,
la Fed se dit aussi prête à modérer la hausse de taux dès la prochaine réunion.
En fait, ce qui est très compliqué dans son discours, c'est on voit que le cœur du sujet, c'est cette fameuse notion. En fait, d'indicateurs avancés par rapport aux indicateurs retard, à la fois sur l'évolution de l'économie et l'évolution de l'inflation. C'est-à-dire qu'il nous dit dans le communiqué, donc il écrit que il faut prendre en compte les effets retard de la politique.
Mais il dit pas la même chose quand il parle après.
Voilà, mais pour la première fois, il l'écrit. Et quand il parle, il dit mais oui, on le prend en compte, mais aujourd'hui, on voit pas encore d'effets. Et donc toute la question, c'est en fait, on a dans l'économie un certain nombre d'indicateurs retard. Il y a trois grands indicateurs retard dans l'économie. Hein. Il y a le taux de chômage, il y a le taux d'inflation et il y a le taux de croissance. Le problème, c'est qu'on ne parle que de ça. Mais ça, en fait, ça reflète ce qui a été fait avant. En fait, ce qu'il faut regarder, si on considère que l'impact de nos décisions va avoir un impact dans quelques mois, c'est effectivement les indicateurs les plus avancés. Et là, effectivement, Jérôme Powell ne s'engage pas, alors qu'on voit que les indicateurs avancés de l'économie, quand on fait des statistiques, quand on fait des enquêtes, on voit bien que tout ça, ça tombe quand même assez vite. Et la question, je me dis, mais finalement, quand je suis face à Jérôme Powell, est-ce que je suis face au docteur House ou est-ce que je suis face au docteur Folamour ? C'est-à-dire que face aux deux, on stresse, mais il y en a un, on a une chance d'en sortir et pas l'autre. Ouais. Et en fait, quand il nous dit, c'est pas grave si je fais les choses trop fortes, si je resserre trop fort les conditions financières, j'ai de quoi après relancer l'économie si c'est nécessaire, ça me fait l'effet d'un médecin qui dit c'est pas grave si je vous génère une crise cardiaque parce qu'après je peux toujours vous relancer le cœur. Donc c'est possible, mais c'est vrai que ça fait assez peur quand on voit le type de raisonnement qui est développé, parce que c'est un raisonnement qui effectivement est un raisonnement assez à l'aveugle. Pour reprendre ce que dit Jean-Marc, on a l'impression que les banques centrales sont un peu perdues et qu'en fait, c'est essentiellement de la communication pour dire, regardez, je fais des choses. Non, on va pas dire que je fais rien. Mais la question, c'est, est-ce que c'est véritablement efficace? Et moi, je suis comme Jean-Marc, j'ai quand même de très gros doutes.
Mais il l'a dit, hein, Wilfried, Jérôme Powell, il l'a dit, personne ne sait s'il y aura une récession ou pas, ni de quelle ampleur elle sera.
Mais surtout, je rappelle que la phrase de conclusion de sa conférence de presse, c'est effectivement l'atterrissage en douceur est possible, mais est de moins en moins probable au fur et à mesure que les conditions financières se restreignent, se durcissent.
Mais c'est lui qui les restreint.
Et c'est lui qui les restreint. Et donc, en fait, je trouve que la conclusion, elle est extraordinaire.
Ah ouais.
C'est-à-dire que mon objectif, c'est d'avoir un atterrissage en douceur, mais mes actions, finalement, ne sont pas très compatibles avec ça.
J'ai peut-être une bonne nouvelle.
Ah oui.
Les prix de l'automobile qui commencent à baisser aux États-Unis, c'est un indicateur, ça, quand même, que l'inflation est en train d'être maîtrisée.
Oui, absolument. Mais on rejoint ce que disait Gaël, c'est-à-dire que des automobiles, on n'en achète pas tous les jours, alors que du pain, on en achète tous les jours.
Ouais. Et donc, vous avez vu, pour l'auto, c'est important parce que vous savez, en deux ans, le prix de l'auto a progressé de 33%. Premiumisation du marché.
Dans les indices d'inflation aux États-Unis, c'est important.
Sauf que là, le dernier mois, ça y est, ça commence à baisser. Donc, et en France aussi, disait Justine Bassogne, 0,1% de hausse de prix des voitures en septembre, c'est la première fois depuis des mois.
Hein. Et le prix de l'énergie a commencé aussi à baisser dans certains États-Unis. Donc effectivement, je pense que le véritable enjeu, ça va être pour les... Alors les banques centrales, dans ces cas-là, je rejoins un peu ce que disait d'ailleurs Wilfried, c'est-à-dire il faut qu'on fasse quelque chose. C'est le discours de Keynes qui écrit à Roosevelt, et donc il écrit en 1938, et Roosevelt dit, mais ça sert à rien du déficit budgétaire, de faire du déficit budgétaire, ça relance pas l'économie.
Ouais.
Et Keynes lui répond, mais ça n'a aucune importance, il faut que vous fassiez quelque chose. Si vous ne faites rien, on va vous accuser d'être passif.
Il est effrayant
totalement insouciant, donc faites quelque chose.
Ce débrief est effrayant.
Et donc, parce que les banques centrales font quelque chose.
Vous êtes en train de nous dire qu'en fait, on sait pas du tout ce qui nous attend.
Et que personne gère.
Et parce que personne gère.
J'ai regardé la conférence de presse hier, c'était effrayant aussi.
Ah ouais, c'est vrai.
Mais il n'y a pas que nous deux qui commençons à dire ça. C'est-à-dire que vous regardez les propos que tient le gouverneur de la Banque Centrale de Corée, qui vient de remonter ses taux, il les a portés à 3%. Il a fait un commentaire sur le thème. Écoutez, maintenant on est arrivé à un certain niveau, à peu près un niveau de taux d'intérêt d'équilibre dans l'économie coréenne. On va en rester là parce qu'au niveau mondial, c'est n'importe quoi.
Ouais.
Et donc, le gouverneur de la Banque Centrale en Inde a dit la même chose. On va s'attendre à ce que le gouverneur d'Angleterre, mon ami, mon chouchou, prenne position clairement.
Il a fait que des bêtises depuis des mois, vous le savez.
Il a fait des approximations.
Bon. Il doit gérer une situation compliquée.
Alors, non, attendez, ça va finir comment cette histoire, Wilfried? Si personne ne maîtrise rien.
Je pense que ça va finir dans un découplage entre les paroles d'un côté et les actes de l'autre. C'est-à-dire que l'histoire pour moi est quand même relativement écrite, c'est-à-dire que à la fin de l'année, on va effectivement annoncer à brève échéance une pause aux États-Unis, et c'est très important parce que les banques centrales du monde entier sont obligées de suivre la banque centrale américaine parce qu'il y a des effets sur le dollar, il y a des effets sur leur propre économie. Et donc, compte tenu effectivement des indicateurs d'inflation qui sont avancés, qui sont en train de tomber assez vite, je pense que à la fin de l'année, on aura effectivement cette pause. Et Jérôme Powell l'a dit aussi, vous l'avez souligné, Stéphanie, il le dit à un moment donné. Je vais devoir faire les choses de façon plus graduelle, je vais devoir ralentir les choses. Il prépare aussi peut-être à, non pas un pivot, mais au minimum, à peut-être une approche un petit peu plus humble de la part des banques centrales.
Je pense que le docteur Follamour, il est non seulement à Washington, mais aussi à Moscou. Ouais. Et ça, c'est un enjeu qui est un enjeu.
C'est un autre problème.
Bon, oui, on va arrêter là parce que je pense que là. Sur l'inflation. Ça